autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Sophie Joubert.
Bonjour à tous et bienvenue. Quel est l'avenir de l'homme sur Terre ? Quels sont les dangers qui le menacent ? Quels sont les scénarios possibles pour aller coloniser d'autres planètes ? Quelles sont les conditions d'émergence de la vie ? Où en est l'exploration martienne ? Comment détecter des exoplanètes ? Qu'est-ce que le signal WOW ? Pouvons-nous modifier l'espèce humaine ? Comment terraformer une planète ? Que se raconte un exobiologiste et un comédien performeur ? Autour de la question « Et si on changeait de planète ? » La réalisation est signée Charles Pélabon. Bonjour Frédéric Ferrer.
Bonjour.
Vous êtes acteur, performeur, agrégé de géographie, c'est bien ça ?
Oui.
Et vous êtes lancé depuis 2010 dans un cycle de cartographie théâtrale du monde, entre performance et conférence. Alors, vous avez étudié les Vikings, le réchauffement climatique, le pôle Nord, le moustique tigre.
Oui.
Et votre dernière conférence cartographie s'intitule « WOW », d'après le signal « WOW ». Un mot sur ce signal « WOW », qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un signal qui a été capté en 1977 par le radio télégraphe de l'université d'Ohio aux États-Unis et qui est un, mais là je parle sous couvert de Michel Bizot, qui est un bruit de l'univers qui a été capté et qui est un bruit anormal, voilà, un bruit qui a duré 77 secondes si je, quelque chose comme ça, et qui témoigne de l'existence de peut-être quelque chose d'autre. Alors depuis, tous les radiotélescopes, pardon, je dis radiotélégraphe tout à l'heure, mais tous les radiotélescopes scrutent et écoutent dans cette direction en essayant de retrouver ce signal.
Et on l'a jamais réentendu pour l'instant.
Et pour l'instant, je crois qu'on l'a jamais réentendu, mais ça n'empêche, mais peut-être que ça ne saurait tarder.
Alors, WOW, c'est donc le titre de votre nouvelle conférence que vous avez jouée en janvier au Théâtre du Rond-Point. Vous allez la jouer le 27 février à Chambéry et le 12 mars au Phénix de Valenciennes dans le cadre du cabinet de curiosité. Et avec vous, en face de vous, Michel Bizot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes exobiologiste au CNES, le Centre National des Études Spatiales, et vous êtes rencontré tous les deux grâce à l'Observatoire de l'Espace.
Oui, c'était au cours d'une sorte de résidence, je dirais, de Frédéric au sein de l'Observatoire de l'Espace. Et donc, comme il s'intéressait à ce genre de thème, donc Gérard Azoulay m'a demandé de parler et de discuter avec lui.
Gérard Azoulay, le directeur de l'Observatoire de l'Espace.
Le responsable de l'Observatoire de l'Espace et qui organise plein de choses, justement, une rencontre entre les scientifiques et les ingénieurs et les artistes créateurs, One Man Show, littérateur, écrivain, cinéaste, etc.
Et j'ai lu dans votre biographie que vous avez à l'origine une formation de vétérinaire et que vous avez lu une petite annonce dans un journal pour suivre un stage de spationaute.
Alors c'est tout à fait ça, oui. C'était pas. Alors c'était même pour être rentré dans une sélection de spationautes et j'ai été sélectionné comme spationaute en 1985. Malheureusement, je dirais dans les faits, les missions qui étaient susceptibles de m'emporter, sur lesquelles que j'ai préparé pendant 8 ans, ont été supprimées par la NASA à la suite d'une réorganisation du programme spatial américain suite à la chute du mur de Berlin. Bon, c'est une histoire. La politique est directement rentrée dans ma vie par ce biais-là.
Mais en tout cas, voilà, le virus de l'espace ne vous a pas lâché depuis. Autour de la question, et si on changeait de planète, quelques pistes de réflexion avec le mix extraterrestre de Charles Pélabon.
La Terre est à bout de souffle, épuisée, surexploitée, la famine, le chaos, et l'homme dans tout ça. L'homme décide d'explorer, de s'embarquer vers l'inconnu, de trouver une nouvelle planète à coloniser.
T'as pas une idée sur cet ailleurs ?
Alors en fait, il y a deux scénarios possibles d'installation sur une autre planète.
Des planètes dites habitables, c'est-à-dire qui ont des conditions physiques, chimiques, de température, pour qu'une forme de vie puisse s'y développer.
Europe est une petite lune de Jupiter. Ce satellite couvert de glace représente pour les scientifiques l'espoir de découvrir la trace d'une vie extraterrestre.
Chaque jour, on en découvre de nouvelles espèces. Des grands, des petits, des rouges, des verts, des poilus, des visqueux.
Tiens-moi la main.
Notre plus proche voisine galactique, Alpha du Centaure, pourrait cacher une planète qui posséderait tous les critères exigés. Elle se situe à un peu plus de 4 années-lumière. À l'échelle cosmique, c'est la porte à côté.
Si on part sur une planète et qu'il n'y a rien, ça veut dire que ça change tout le trajet. C'est-à-dire qu'il faut partir avec la végétation, il faut partir avec les animaux, on ne part pas du tout de la même manière. Quand il y a tout à apporter, quand tout est déjà là.
Aujourd'hui, quels sont les profits réels de l'exploration spatiale ?
On est arrivé à un moment charnière et il nous faut repenser la condition humaine et le sens de notre présence sur cette planète si nous voulons espérer avoir un avenir.
Ne serait-ce que pour des raisons naturelles de cataclysmes cosmiques ou géologiques, tectoniques, climatiques.
Je t'explique, le monde est fini.
Des questions fondamentales au fond de nous, c'est qui nous sommes, d'où venons-nous, où allons-nous ?
Je ne sais pas, n'importe où.
Vous pensez que le destin de l'homme se joue au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes, que la Terre n'est peut-être qu'une étape pour l'homme.
Alors, on a entendu beaucoup de choses dans ce mix de Charles Pélabon, notamment une très amusante classification systématique des extraterrestres. Michel Vizeau, on entend la voix de Jacques Villeray et Louis de Funès, et puis voilà, on entend qu'il y a beaucoup d'extraterrestres, des grands, des petits, des poilus. Et puis on vous entend, Frédéric Ferrer, à deux reprises, hein, c'est vous qui parlez des deux scénarios possibles, et puis vous demandez si on doit partir avec tout, avec les plantes, avec les animaux. Alors, un mot de la forme de ces cartographies, de ces conférences. Donc, vous êtes tel un conférencier sur scène, debout, avec juste un ordinateur et un écran. Et alors, que projetez-vous sur cet écran et comment se fait l'interaction entre la parole et les images ?
Bien, en fait, j'utilise un outil de présentation qui est le PowerPoint, mais on pourrait utiliser un autre outil de présentation. Et l'idée est d'utiliser cette donc il y a beaucoup d'images, de titres comme n'importe quelle présentation universitaire, pourquoi pas, et l'idée est de construire une narration à partir de ces images, un récit qui puisse faire penser à une conférence et qui en même temps nous emmène, je l'espère, dans des territoires, alors là en plus c'était le sujet, dans des territoires un peu inattendus parfois, quoi, et parfois de manière plus libre. Enfin, je sais pas si je suis plus libre in fine, mais en tous les cas, une fois que la question initiale a été posée, moi je déroule des hypothèses à partir de titres et d'images, et ces hypothèses, grâce à l'outil de présentation qu'est le PowerPoint, me permettent d'aller dans plein de territoires inattendus.
Alors Michel Vizeau, c'est vous qui apportez la matière à Frédéric Ferrer, donc pour employer la métaphore culinaire, vous faites les courses et il fait la cuisine, c'est ça, il fait la soupe primordiale.
Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi je suis représentant d'une communauté scientifique, je dirais, et d'une institution. Donc, nous avons un sujet qui est l'exobiologie, qui est donc la recherche de la vie extraterrestre, des conditions d'apparition de la vie. Sur Terre et éventuellement sur d'autres corps célestes, dans notre système solaire ou ailleurs. Et donc là, nous l'étudions de façon scientifique en posant une question, en essayant d'y répondre, et si on a une réponse, en faisant une deuxième hypothèse, éventuellement une troisième, mais on va jamais au-delà, parce qu'après, on sait qu'on est dans le délire et que de toute façon, la science ne peut pas faire une accumulation d'hypothèses. Donc, on met ce qu'on a sur la table, et puis Frédéric Ferrer et ou d'autres artistes prennent ce qu'il y a, et avec ça, ils se construisent un vaisseau imaginaire dans lequel ils amènent les spectateurs. Et donc, nous, on fournit cette chose-là. Effectivement, c'est comme la mayonnaise. On fournit le jaune d'œuf, la moutarde et l'huile. Et puis après, bah, à eux de jouer.
Alors, votre conférence, Frédéric Ferrer, s'intitule WOW. Elle est sous-titrée « Conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs ». Alors, et si on partait vivre ailleurs, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? Certains scientifiques le pensent. Je voudrais vous faire écouter Jean-François Clairvoy, spationaute à l'Agence spatiale européenne, avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, Michel Vizeau.
Il faut se préparer mentalement, pour ceux qui sont assez visionnaires, que dans un terme assez lointain, ça peut être des milliers, voire des dizaines, centaines de milliers d'années, apprendre à quitter la Terre, rester loin, se reproduire loin, et recréer nos civilisations.
Donc on peut dire que l'avenir de l'humain sera dans l'espace ou ne sera pas, forcément.
Exact. Ah oui, ça c'est
forcément.
L'espace, c'est la solution à très long terme pour l'humanité.
C'est la seule.
Mais moi j'aime bien l'idée, d'abord, que dans les dizaines, centaines d'années qui viennent, on va démontrer que la vie existe ailleurs, et qu'à très long terme, on soit capable d'assembler un vaisseau spatial dans lequel on vit en autarcie et qui peut partir pour des dizaines d'années, des centaines d'années, avant de rencontrer un autre système solaire autour d'une autre étoile. Faut pas se l'interdire.
Jean-François Clairvoy était interviewé par Philippe Stark dans l'émission Future by Stark. Réaction, Michel Vizeau.
Alors, bon, moi j'ai une vision, alors peut-être beaucoup plus terre à terre, parce qu'actuellement, et je pense que Jean-François Clairvoy, qui est quand même un polytechnicien, qui a quand même une forte notion de physique, sait parfaitement que le premier problème c'est l'énergie, que actuellement, dans les connaissances que nous avons aujourd'hui, on n'a pas les moyens de donner de l'énergie pendant une durée suffisante pour aller aussi loin. Ce n'est pas possible. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut aussi vivre dans la réalité, c'est-à-dire que, encore une fois, avec les connaissances d'aujourd'hui, on est sur une Terre où il y a tout, et dans ce qui nous entoure, et là où on pourrait éventuellement envisager peut-être de poser le pied un jour, ça s'appelle la planète Mars, il n'y a rien. Alors y aller pour faire une visite, planter sa tente et revenir 3 jours après, ou 6 mois après, pourquoi pas?
Et ça coûte très cher.
Je ne veux même pas parler de sous là, cette histoire. C'est pas que, on va tout de suite dans des sommes faramineuses. Ça c'est un autre problème. Mais déjà, c'est pour moi, on est dans l'impossibilité. Donc ne quittons, prenons soin d'un endroit où il y a tout, explorons par des robots, par notre imagination, par les photons qu'on reçoit, l'univers qui nous entoure, essayons de le comprendre, etc. Mais ne rêvons pas qu'un jour, quand on aura abîmé ce sur quoi on vit, on ira ailleurs. Notre vaisseau spatial, le vaisseau spatial de la biosphère, et pas seulement de l'espèce humaine, parce que l'espèce humaine toute seule, elle n'existe plus. S'il n'y a pas de plantes, pas d'animaux, pas de vers de terre, pas d'abeilles, pas de concrelats, pas de punaises, on ne sert à rien. Eh bien, notre biosphère, elle a qu'un seul vaisseau spatial, c'est la Terre. Et on n'a pas les moyens de projeter la Terre en dehors de son orbite pour l'envoyer quelque part, on ne sait où.
Voilà, c'est pour ça, Frédéric Ferrer, que vous dites d'une manière très amusante dans votre conférence, il faudrait partir avec les plantes, avec les animaux, il faudrait tout emmener ailleurs. Ça devient très compliqué.
Oui, s'il n'y a rien sur place, il faut tout apporter. Oui. C'est un peu ce qui est à la base de la terraformation. Alors, terraformation, c'est pas tout apporter, c'est tout créer sur place, mais ça raconte un peu la même difficulté.
Comment formulez-vous vos hypothèses pour construire cette conférence?
De manière très naïve, c'est comme si on était devant un chemin. Il y a la possibilité de prendre à droite ou à gauche, et c'est vraiment ça. Hein. Moi, je raisonne de manière très très naïve. À partir du moment où on part du principe que à un moment donné, l'histoire de l'espèce humaine sur Terre sera finie, que ce soit lié à l'homme ou que ce soit lié à autre chose,
au soleil,
à très longue échéance, si l'espèce humaine veut perdurer, je sais pas d'ailleurs ce qu'elle sera devenue, peut-être que ce sera plus l'espèce humaine, mais il faut vraiment qu'elle se pense ailleurs. Et si elle se pense ailleurs, si elle peut se penser ailleurs, alors la question qui vient tout de suite, c'est où, quoi?
C'est où?
C'est où?
Alors, on va voir aussi quelles sont les conditions nécessaires à l'apparition de la vie ailleurs. Hein. C'est ce qu'on cherche en ce moment. On en parle juste après Ben l'Oncle Soul, ailleurs, justement, sur RFI.
Peu importe ce qu'ils disent, peu importe, on s'en fout.
Ben l'oncle Soul ailleurs sur RFI autour de la question et si on changeait de planète. Michel Wiseau, au fond, quand on recherche la vie ailleurs, on parle plus des origines que du futur.
Alors quand on cherche la vie ailleurs, dans l'imagination des gens, c'est tout de suite une espèce manufacturière avec un corps qui ressemble un petit peu à des hommes, si on veut pas avoir trop peur, à des insectes ou à des larves hautes, si on veut ne se faire peur. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche, pour différentes raisons, on cherche plutôt des micro-organismes qui ont transformé leur environnement. Sur Terre, au départ, il n'y avait pas d'oxygène libre. Le dioxygène qu'on respire, O2, n'existait pas. Et c'est quelque chose qui a été créé par des bactéries qui ont gagné des pigments, qui étaient transformés à la lumière d'énergie du soleil et qui était capable de faire à partir du gaz carbonique qu'il y avait de l'oxygène. Et donc c'est à peu près 2 milliards d'années de façon significative. Avant, il n'y avait pas d'oxygène. Donc nous, ce qu'on va chercher, ce sont des micro-organismes puisque de toute façon, c'est par là que tout commence. La deuxième chose, c'est que sur Terre, on a une évolution darwinienne qui fait que l'on est passé des microbes, donc enfin plus exactement des bactéries. On est passé ensuite aux micro-organismes qui avaient un noyau, donc qui avaient une cellule plus évoluée. Puis après, ils se sont mis ensemble, ils se sont spécialisés petit à petit, et ça a débouché sur l'homme, la girafe, le serpent, tout ce qu'on veut. Toutes ces choses-là. C'est le fruit d'une évolution qui est à la fois le hasard et l'environnement. Il n'y a pas un vecteur qui mène directement de la bactérie à notre adolescent préféré en train de jouer dans sa chambre avec sa Wii. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, en fait, il y a toujours une coévolution des espèces les unes avec les autres. En fait, c'est un écosystème.
C'est buissonnant.
Qui évolue et c'est buissonnant et c'est pas l'arbre de l'évolution qu'on voyait avec ses racines, machin, et puis l'homme tout en haut. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, le fruit des hasards qui a amené à une espèce manufacturière humaine, avec l'ensemble des autres primates, c'est quelque chose qu'on a, si on fait des statistiques, a une chance infinitésimale de se retrouver ailleurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des formes de vie différentes, et c'est ce qu'on cherche. Ça partira peut-être du micro-organisme. Si ça dure assez longtemps, ça va évoluer vers des formes de plus en plus élaborées et spécialisées. Mais que ça amène à une espèce manufacturière comme la nôtre.
Une forme de vie intelligente, c'est pas du tout évident.
Il n'y a aucune évidence et il n'y a aucun élément scientifique qui permette de le penser.
Oui, l'un de vos collègues du CNES, Jean Schneider, dit que ça pourrait plus ressembler à des boules, en fait, que, bon, tout le monde a son interprétation. Frédéric Ferrer, comment ça vous fait rêver ou ça vous fait aller plus loin, ce que dit Michel Wiseau? Comment vous vous en emparez?
Je l'écoute là. J'ai déjà un milliard de questions nouvelles à lui poser. Oui. Moi, en fait, j'essaye de trouver des sens. Le documentaire scientifique, les résultats de la recherche scientifique sont des puissants. Excitant de l'imagination, c'est-à-dire qu'à partir de là, on peut. Là, quand Michel Wiseau disait tout à l'heure, c'est pas l'arbre généalogique, mais c'est un buisson et c'est buissonnant, etc. Et finalement, l'humanité, on n'est que à un endroit qui est un endroit d'équilibre à l'heure actuelle, et que ça ne peut se penser qu'avec les espèces qui sont là aujourd'hui. Notre humanité n'aurait pas pu exister avec d'autres espèces il y a quelques millions d'années. Ben, ça c'est vertigineux.
Autour de la question « Et si on changeait de planète ?», on va parler des exoplanètes, des recherches sur Mars. Michel Wiseau, Frédéric Ferrer, vous restez avec nous. On se retrouve juste après les informations sur RFI.
Autour de la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question « Et si on changeait de planète ?» avec Michel Wiseau, exobiologiste au CNES, et Frédéric Ferrer, comédien, performeur, conférencier, auteur de la conférence « Wow !» qui s'interroge avec humour sur les possibilités de vivre ailleurs. Écoutez un extrait, il est question des exoplanètes.
On va s'intéresser que à notre galaxie, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup d'inconnus sur notre galaxie. Et il y a 1000 milliards de galaxies, donc je ne vais pas pouvoir aborder les 1000 milliards. Donc elle se présente sous la forme d'une spirale, cette galaxie. Et donc dans cette galaxie, on pense qu'il y aurait entre 150 et 300 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Enfin, de types différents, elles ne sont pas toutes comme le Soleil. Il y a des naines, il y a des géantes, etc. Et autour de ces étoiles, et ça c'est une grande nouveauté des 20 dernières années, eh bien, on s'est aperçu qu'autour de ces étoiles, il y avait des exoplanètes, des planètes en dehors du système solaire. Et on a réussi à chiffrer le nombre d'exoplanètes potentielles de notre galaxie. Il y en aurait 1800 milliards. Donc ça fait autant de chances, 1800 milliards, de trouver une planète similaire à la Terre qui offrirait exactement les mêmes conditions pour que nous puissions nous déplacer en cas d'urgence ou pas, hein, en tous les cas, pour penser le devenir de l'humanité.
Frédéric Ferrer, cette conférence WOW, c'est vraiment un exercice artistique, c'est pas de la vulgarisation à proprement parler.
Non, c'est une tentative. En fait, à partir du moment où il y a une question qui est posée, c'est où aller vivre en cas d'urgence, par exemple, ou en tous les cas, où pourrions-nous vivre en dehors de la Terre. À partir du moment où la question est posée, après, moi je suis pas dans un souci de vulgarisation. Après, moi je déroule un raisonnement qui est nourri bien sûr des résultats de mes rencontres avec les scientifiques, avec Michel Vizeau, etc., qui est nourri donc de réalité. Mais c'est justement cette réalité-là qui permet de faire en sorte que l'imaginaire ou l'imagination puisse justement davantage exister parce qu'il est davantage ancré dans quelque chose de concret dès le départ.
Voilà, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est très concret parce que par exemple, quand on vous entend dire il y a 1800 milliards d'exoplanètes, donc vous faites une soustraction, 1800 milliards moins les 1882, puisqu'on
oui,
en découvre
tous les jours,
tous les jours
oui.
Hein, qu'on connaît, ben, voilà, ça fait tant et là c'est extrêmement concret.
Oui, bah, c'est très concret, mais c'est-à-dire que, en fait, moi, ça m'a permis très concrètement, en le faisant, le calcul, de me rendre compte que, à tel point, on voit même pas d'ailleurs, mais on ne savait regarder que dans un tout petit espace autour de nous, que c'était notre capacité d'appréhension de notre galaxie, si on reste que sur notre galaxie, elle est très petite, elle est infinie. Tésimale par rapport à la quantité supposée d'exoplanètes. Enfin, on est dans des dimensions qui sont dingues, quoi, dingues.
Alors, Michel Vizeau, la première exoplanète a été découverte en 1995. C'était 51 Pegasi B, parce qu'elles ont des noms un petit peu barbares comme ça.
Non, elles ont le nom de leur étoile et elles voilà. portent une lettre B. Alors, elles portent une lettre en fonction du moment où elles ont été découvertes. Alors A, par définition, A c'est réservé au Soleil lui-même.
Oui.
Donc après c'est B, C, D. Mais on peut avoir C qui est plus près du Soleil que B, etc. Donc voilà, les astronomes se sont mis d'accord, ils ont choisi ça.
Alors comment on les détecte ces exoplanètes?
Alors il y a plusieurs méthodes de détection. Il y en a qui peuvent se faire à partir du sol, notamment c'est la première, hein, ce qu'on appelle les vitesses radiales. Alors bon, c'est un peu compliqué, mais c'est l'effet Doppler appliqué à la lumière. Alors l'effet Doppler, hein, c'est quand une moto vient vers vous, elle est de plus en plus grave, et quand elle s'éloigne, elle est de plus en plus aiguë. Alors la lumière, quand elle vient vers nous, elle est de plus en plus bleue, quand elle s'éloigne, elle est de plus en plus rouge. Alors quand on observe un soleil, on peut détecter quelque chose. On détecte pas l'exoplanète. On sait que en regardant le soleil, il y a quelque chose qui fait que ça tourne et que ce soleil a une exoplanète.
C'est-à-dire qu'on les voit pas.
On ne les voit pas. Oui. Alors il y en a quelques-unes, je crois qu'il y en a une dizaine qui ont été vues, mais ce sont des planètes géantes absolument énormes, etc. La plupart des planètes, on les voit pas.
Donc c'est ce qu'on appelle la détection indirecte.
Ça, c'est la détection indirecte. Donc il y a plusieurs méthodes. Les deux plus connues, donc, c'est ce Doppler-là, avec Byung. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle le transit. Donc là, on le fait à partir de l'espace, à partir du sol et à partir de l'espace. À partir de l'espace, il y a deux satellites qui l'ont fait. Corot pour un satellite du CNES et puis Kepler, un satellite de la NASA. Et il y en a d'autres qui vont le faire bientôt. Et là, simplement, ben, quand la planète passe devant son soleil, elle en cache un petit morceau, la lumière diminue. C'est comme quand on passe devant un phare de voiture. On ne reconnaît pas la personne, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui est passé. La baisse de luminosité est infinitésimale. C'est 1/10 millième, 3/10 millième, quelque chose comme ça. Donc il faut des instruments extrêmement précis. Donc voilà, c'est les deux méthodes essentielles. Après, il y en a d'autres, mais elles sont un peu anecdotiques.
Quel scénario élaborez-vous, Frédéric Ferrer, concernant ces exoplanètes?
Quel scénario pour
dans la conférence
Il y a deux possibilités. Soit une planète, c'est ce que je dis à un moment donné, c'est une fois qu'on a découvert une exoplanète, peut-elle accueillir la vie? Une fois, supposons qu'elle est dans la bonne zone d'habitabilité autour de son étoile, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité peut-être éventuellement que la température soit plutôt agréable et qu'il y ait peut-être éventuellement de l'eau. À partir du moment où on part de cette base-là, qu'on a défini une zone d'habitabilité et que l'on sait que cette planète est dans cette zone d'habitabilité, après toutes les questions sont ouvertes. C'est ce que je dis à un moment donné, c'est que soit il y a rien, soit il y a tout. S'il y a tout, très bien, on y va tout de suite, si jamais on peut se déplacer. Et puis s'il y a rien, il faut tout apporter. Ou alors ça pose des questions immenses là. S'il faut pas tout apporter, il faut créer le déclencheur.
À quelle distance de nous est la plus proche exoplanète?
Alors la plus proche qu'on ait découverte, c'est autour de l'étoile la plus proche, qui est Proxima du Centaure. Donc qui a 4 années-lumière. Alors l'année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année, en sachant que la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. C'est-à-dire qu'elle fait 10 fois le tour de l'équateur. Hein, c'est l'équivalent, pas tout à fait 10, mais presque, 9 fois le tour, à peu près 9 fois le tour de l'équateur en une seconde. Donc on est 300 000 km, hein, voyez ça, et puis ça pendant un an, sachant qu'il y a 86 400 secondes par jour, et puis vous avez multiplié ça par 365, et vous verrez que ça fait des milliards de milliards de milliards de kilomètres. Voilà, c'est très loin quand même.
On peut laisser tomber l'hypothèse, hein, Frédéric Frère, puisque vous faites tomber les hypothèses les unes après les autres.
Ouais. Mais là, le temps de trajet, je sais plus, mais je crois que justement jusqu'à Alpha du Centaure, c'est 40 000 ans.
Alors à 10% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire si on va à 30 000 km/h, ce qui est déjà énorme, hein, l'engin le plus rapide que nous a envoyé, qui est actuellement aux confins du système solaire, il va à 47 km par seconde sur sa trajectoire. Et donc, si on va encore 10 fois plus vite, il faut 40 000 ans pour y aller.
Alors, les exoplanètes préoccupent beaucoup les scientifiques, mais ils regardent aussi beaucoup en direction de Mars. Je propose d'écouter Sylvestre Maurice, astronome à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Et il présentait en juin dernier la technologie ChemCam, un instrument d'analyse des roches et des sols autour du rover Curiosity.
On a un programme global d'exploration de Mars avec des questions fondamentales. Comment une planète devient habitable? Peut-être comment elle devient habitée? Des questions qu'on a du mal à répondre sur Terre parce qu'on a perdu cette mémoire et qu'on va chercher sur Mars. Ça, c'est le grand programme. Et dans un détail, celui de Curiosity, c'est de comprendre un endroit particulier qui s'appelle le cratère Gale, eh bien la géologie, la géochimie, le climat, finalement l'environnement, la surface ancienne de Mars à cet endroit bien particulier qu'on a choisi de façon très très particulière. On a fait très attention, on espère ne pas s'être trompé, c'est le meilleur endroit pour trouver dans le passé si Mars a pu être habitable. Dans notre petit voyage à la surface de Mars depuis bientôt 2 ans, on a vu des roches de type volcanique. C'est-à-dire, c'est les volcans font les surfaces des coulées de lave. Et puis après, on a vu déjà, on a qualifié ces coulées de lave. On a vu qu'elles étaient plus profondes d'ailleurs que le volcanisme équivalent sur Terre. Et puis d'autres fois, on a vu que cette lave avait été lessivée. Lessivée par l'eau. On a vu des roches qui se sont transformées, des roches sédimentaires, transportées par le vent. On a aussi vu des roches qui avaient même roulé dans l'eau et avant des galets. Donc on a vu les roches d'origine, les roches transformées. Tout ça nous renseigne sur la mise en place de la surface et son évolution avec le temps. On a plusieurs types de roches qui nous ont montré qu'il y avait eu de l'eau dans le passé, ça on le savait, mais on a commencé à qualifier cette eau. On s'est dit, de temps en temps, elle a pu être chaude. D'autres fois, on a assis un peu plus, on a dit, l'eau, elle n'était pas acide. Sinon, on aurait vu d'autres types de roches. Elle n'était pas basique non plus, d'ailleurs, ça a été à pH neutre. Et par exemple, il y a quelque chose qu'on a cherché qui s'appelle un sel de magnésium, qu'on n'a pas trouvé. Et l'eau n'était pas salée. D'ailleurs, je peux vous dire qu'à la fin, quand on met tous ces termes ensemble, on a trouvé que dans le passé, il y avait de l'eau qu'on peut dire potable à la surface de Mars, à l'endroit où on est dans le cratère Gale.
Que pensez aujourd'hui de l'hypothèse d'un voyage habité vers Mars, Frédéric Ferrer?
C'est en cours d'imagination, ouais. Les voyages habités vers Mars, et c'est en cours même d'organisation par une entreprise privée néerlandaise. Ouais. Là, je vais laisser Michel Vizeau répondre à cette question.
Alors, Il y a des choses différentes. Il y a l'exploration martienne, c'est renvoyer un homme en disant c'est la prochaine frontière, voilà. On est allé sur la Lune, la prochaine étape, et peut-être l'étape ultime, si la Lune ne l'est pas, ça sera Mars. C'est très très difficile d'envoyer de façon sécurisée des gens sur Mars et être sûr qu'ils reviennent.
Parce que les conditions, déjà c'est très loin, mais les conditions sont très hostiles.
Alors les conditions sur Mars sont très hostiles, il faut tout amener avec soi. Alors il y a des gens qui pensent qu'on peut utiliser les ressources sur place, etc. Mais il y a un problème d'énergie, parce que l'énergie solaire est 4 fois moins importante que sur Terre. Donc il faudrait des panneaux solaires énormes, etc., etc. Et puis il faut amener énormément de masse pour pouvoir en repartir. La gravité est plus importante que sur la Lune, donc pour décoller, il faut décoller une masse plus importante pour envoyer la même masse en orbite. Donc il y a d'énormes problèmes, et donc même l'excursion vers Mars pose de grandes questions. Et malheureusement, les femmes sont plus sensibles aux radiations que les hommes, ce qui fait qu'il vaut mieux prendre des vieux bons hommes entre 50 et 55 et 65 ans, qui ont peut-être un cancer qui se déclarera 30 ans après, plutôt que des femmes qui, jeunes ou des jeunes hommes ou des jeunes femmes, qui sont beaucoup plus sensibles aux radiations et qui pourraient déclarer des cancers beaucoup plus tôt, parce qu'on est vraiment exposé aux radiations quand on va vers Mars. Le trajet lui-même est extrêmement dangereux. Ça, c'est une chose. Après, il y a ce que j'appelle le délire ou l'escroquerie ou tout ce que vous voulez, qui consiste à dire on va aller coloniser Mars.
Donc ça, c'est Mars One.
Et Mars One, on va envoyer des gens sans qu'ils puissent revenir et ils vont pouvoir se développer sur place. Pour moi, on est hors de toute réalité. Alors, autour du bar, on peut en discuter, au troisième verre de whisky si on veut, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais scientifiquement, honnêtement, aujourd'hui, je ne peux pas admettre que ce soit possible. Parce que il n'y a rien. Je veux dire, des gens disent on va construire des serres. D'accord, mais une serre, il faut du verre, il faut du plastique. Il faut du plastique, c'est du pétrole. Il faut de la chimie. On ne peut pas partir faire des choses comme ça. Et ensuite, on a vraiment un très gros problème d'énergie. Et la troisième chose, c'est que c'est une vision extrêmement simpliste de la vie. Les gens ont essayé de faire une biosphère 2, là,
dans
une deuxième terre dans l'Arizona. Bien entendu, ça n'a pas marché. Parce que c'est pas... Je veux dire, il faut des espèces, il faut des bactéries, il faut des vers, il faut des abeilles, etc. Je veux dire, on ne peut pas faire que de l'hydroponique et on peut pas faire une vie.
Hydroponique.
Alors hydroponique, c'est des tomates qu'on achète qui sont fabriquées en Hollande, etc. Ce sont des choses où il n'y a pas de sol. En fait, on apporte que de l'eau avec un système nutritif des sels minéraux et avec ça, on fait croître quelques plantes, mais quelques plantes. Mais on fait pas croître un ensemble nécessaire à la nutrition humaine. Et moi, je crois que c'est complètement illusoire et que les gens s'amusent à y penser et à en rêver, c'est très bien. Après tout, c'est une forme d'art et de spectacle. Mais on n'a pas le droit de croire que ça va être possible.
Voilà, vous montrez ça à Frédéric Ferrer dans la conférence WoW. Vous dessinez des bulles hein, un peu qui ressemblent un peu à la biosphère, mais vous dites au fond ça contiendrait 6 personnes, pas tellement plus.
Oui, parce que avant que ça puisse, d'abord, je rejoins ce que disait Michel Vizeau, mais surtout, de toute façon, oui, si on devait penser ces groupes humains en autarcie et autonomes, on pourrait d'ailleurs le projet Mars One, c'est que 5 ou 6 personnes dès le départ. Oui, c'est forcément des tout petits effectifs parce qu'il faut tout apporter, il faut tout fabriquer sur place, de l'oxygène, etc. Sans énergie, c'est compliqué. Donc plus la densité de population est importante, plus le nombre est important, plus ça devient compliqué.
Mais concernant Mars One, vous parlez de projet de colonisation et ce mot est important, Michel Vizeau. Alors qu'aujourd'hui, au fond, depuis la fin de la guerre froide, on n'est plus dans une volonté de colonisation, on est plutôt dans une volonté scientifique d'exploration de l'espace. C'est pas tout à fait la même démarche.
Alors, d'abord, Mars One, c'est une entreprise privée qui a mis ça en exergue, etc., et puis qui mobilise, qui fait rêver les gens. Ouais. Pour simplifier, c'est un peu de l'entertainment, c'est du spectacle et la distraction. Actuellement, effectivement, tout le monde est en train de penser que l'exploration de Mars, ce sera une exploration collectivement organisée par les pays spatiaux, principalement la Chine, les États-Unis. Dans un deuxième niveau, je dirais la Russie et la France et l'Europe d'une façon générale, et ça sera pas une entreprise individuelle. Mais même ça va être très 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 très, très difficile et très très cher. Je rappelle que ce sont des milliards. Alors et ça n'a de sens que si ça tire la technologie vers le haut. Ou si c'est un phénomène extrêmement unificateur, comme l'a été par exemple la Station Spatiale Internationale juste à la fin de la guerre froide, où c'était un moyen de faire travailler l'ancienne Union soviétique avec les Américains et les Européens pour construire quelque chose de commun, et surtout en gardant en Russie la plupart des techniciens et des ingénieurs qui étaient capables de, sinon de s'éparpiller un peu partout pour faire des missiles divers et variés. Donc ça obéit à un impératif politique. Et je crois que l'exploration martienne, elle sera décidée quand elle obéira à un impératif politique, dont personnellement j'espère que ça sera un impératif unificateur et coopératif, et non pas séparateur.
Mais par exemple, quand les Indiens et les Chinois veulent aller sur la Lune, c'est dans un objectif d'être les premiers, enfin pas les premiers puisqu'on y est déjà allé, mais c'est un objectif politique.
C'est le but, enfin. D'abord, le but des Chinois, ça veut dire aux Chinois de le dire, hein, c'est pas à moi de le dire, mais pour moi, ça apparaît comme étant clairement un objectif d'atteindre une excellence et de démontrer une excellence technique et technologique. Parce que pour envoyer déjà un objet comme U2 qui est allé sur la Lune avec un petit robot qui a été opéré, c'est déjà sur le plan technique énorme. Il y a que les Russes et l'Union soviétique à l'époque qui l'ont fait. Les Américains y ont envoyé des hommes et ils n'ont pas opéré des mobiles sur place directement. Automatiquement. Et là, maintenant, les Chinois acquièrent les techniques pour faire ça et pour aller éventuellement plus loin. Mais déjà, envoyer un homme sur la Lune, c'est un objectif, mais c'est un objectif qui est extrêmement politique. Pour dire on a tous les attributs d'une grande puissance.
Après, scientifiquement, le voyage sur vers Mars, le fait qu'il y a un homme sur Mars, ça répond à des, enfin, l'homme permet de creuser un trou plus profond que le robot, et donc peut-être aide plus facilement à aller chercher la vie si elle est apparue.
Ah, c'est un débat parce qu'on a un problème de protection planétaire et justement au mois de mars il y a un colloque organisé par la NASA à San Francisco, à côté de San Francisco, sur le fait d'apporter que l'homme va apporter des bactéries sur Mars. Oui. Et donc comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas sur Mars et comment éviter que ça devienne un problème de contamination de Mars par des bactéries terrestres. Donc ça se prépare. Actuellement, les gens parlent très sérieusement dans les institutions. On parle très sérieusement de ce voyage vers Mars, même si on sait que ça sera un jour, sans mettre comme chez les militaires un certain temps. Hein, on verra.
Alors, le CNES est extrêmement actif concernant les relations entre science et art, littérature, spectacle vivant. Nous allons entendre le Belge Clément Thirion, avec qui vous avez également travaillé, Michel Vizeau, juste après Jupiter et Oquest International, Djende Tale Kaka sur RFI. Bilongwa kuna na konga o Eseka soso kosoe Fuma di katukene bakolela Pota ya kobela za baolotai Bota ko bilanda balota balota ki balota bate fela ki bote fela ba manya ki ba manya ba bororo bororo Bosa na na ka juma boki seji Bosa na na ka juma boki seji ngoya e
mobali katokaine bakolela Bota ya kobelanda ba olota Bosalangano akatuma bokeseji Ah bokezi
Jupiter et Hawkwest International, Djenge, Talik Aka sur RFI, Michel Vizon, on était en train de parler pendant le disque de la conquête spatiale en Afrique. Enfin, de l'exploration spatiale, on ne dit plus la conquête spatiale.
Allez, de l'exploration spatiale en Afrique. Alors bon, d'abord, il y a des civilisations qui ont, comme toutes les autres civilisations, sont tournées vers les étoiles, hein, et qui utilisaient les étoiles aussi bien pour des rites religieux que pour des rites tribaux ou divers, enfin de groupes de personnes diverses et variées. Et puis il y a quelques endroits où les gens font des fusées expérimentales. Hein, je pense que c'est en République démocratique du Congo. Pour mobiliser des jeunes, des esprits, des différentes personnes et pour vers un objectif. Alors bon, c'est pas encore des moyens d'aller dans l'espace, mais voilà, il y a cet état d'esprit, cette fascination toujours pour aller ailleurs.
Alors on parle des liens entre art et science. Clément Thirion est comme vous, Frédéric Ferrer, passionné de science et il est en train de répéter en ce moment un spectacle intitulé Fractal qui sera présenté sous forme d'atelier au festival Ardenté de Vanves le 24 février prochain. Écoutez Clément Thirion jouant la semaine dernière, non pas sur Mars mais en Belgique.
C'est un spectacle qui est né d'une intuition qui était de parler des extraterrestres et de mélanger ça avec les fractales qui sont des objets mathématiques que je voulais étudier en fait. Dans le cadre d'une chorégraphie, et je voulais un peu mélanger ces deux thématiques qui ont a priori rien à voir, et voir un peu comment elles pouvaient cohabiter, se frotter et raconter des choses ensemble.
Alors vous êtes actuellement en répétition, qu'est-ce qu'on va voir sur scène ?
Alors vous allez voir quelqu'un qui écoute des sons qui viennent de l'espace, et on a dans l'attente d'un signal provenant d'une civilisation extraterrestre. Cette personne va vous parler de fractales, de recherches de vie extraterrestre, de musique, de danse. Il va convoquer un groupe de 30 acteurs-danseurs pour effectuer une chorégraphie mathématique. Et puis, tout d'un coup, il va recevoir un signal sur son ordinateur. Et bon, la surprise, ce sera en direct sur le plateau.
Est-ce que le spectateur va savoir ce qui est du domaine de la fiction et ce qui est du domaine de la vraie recherche scientifique, Clément Thirion ?
Non, je crois que je vais laisser la chose un peu floue, parce que qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est réalité en science, la limite entre science et science-fiction, c'est pas toujours très clair. Voilà, pour beaucoup de gens, la science, c'est quelque chose de très abstrait, et donc c'est quasi du domaine de la fiction. Pour 95% des gens, la recherche du extraterrestre, on croit que c'est que dans les films. Donc je crois que je vais laisser la limite assez floue, de laisser une sorte de rêve métaphysique sur une humanité qui se sent bien toute seule sur sa petite Terre, perdue dans le vide intersidéral, et quant à savoir si elle est accompagnée dans l'univers par des traîtres intelligents, ou c'est le rêve, quoi. On est dans le rêve, qu'il soit scientifique, ou philosophique, ou métaphysique, on est dans le rêve.
Fractal de Clément Thirion sera présenté au Théâtre de Vanves le 24 février prochain dans le cadre du Festival Ardenté. Et puis j'en profite pour signaler aussi le Festival du CNES Sidération qui aura lieu du 19 au 22 mars au siège du CNES à Paris avec de la musique, de la philosophie, des spectacles, des conférences. Frédéric Ferrer, jusqu'où peut-on rêver la science ? Pour rebondir sur ce que disait Clément Thirion.
Ah oui. On peut rêver. Ah non, mais c'est une formidable matière pour rêver, oui. Oui, pour rêver, pour partir, pour créer, pour fabriquer, pour inventer le monde, oui. Puis il y a de quoi faire, hein.
Michel Vizot, je le disais tout à l'heure, vous avez fait une classification systématique des extraterrestres. Alors c'est très très amusant, on peut voir ça sur Internet. C'était une conférence, hein, à l'origine.
Ah non, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. C'est quelque chose qui a été fait dans le cadre d'un film, d'une production qui a été faite, une présentation, une émission à destination des extraterrestres en 2007, si je me rappelle bien.
On peut leur envoyer des messages.
Voilà. Hein, mais... Alors, on a envoyé à partir des hôtels, des antennes de Saint-Lys Radio à côté de Toulouse, et donc c'était une émission pour la nuit des étoiles avec un ensemble de films, etc., très intéressant, qui était fait par deux réalisatrices, et cette classification des extraterrestres était un des éléments de cette soirée qui est absolument remarquable. Alors forcément, avec là mon background de vétérinaire dont vous avez parlé avant, et forcément réagi, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, et ça donne une idée. Bon, ce sont des extraterrestres dans nos films. Les extraterrestres, oui, dans nos revues, les extraterrestres que nous imaginons et qui ont forcément... on voit très bien derrière d'ailleurs tout ce qui est tout l'esprit humain, toute la similitude et l'époque qui nous fait imaginer un extraterrestre ressemblant à ci ou ressemblant à ça.
Ils sont souvent très, très zoomorphes, hein, puisque vous parliez de des similitudes avec vos travaux de vétérinaire, et des crustacés, des insectes.
Bah, le problème, bon, imaginez une sauterelle qui est la taille d'une vache. Vous allez tout de suite vous trouver que c'est un peu différent quand même de la sauterelle. C'est pas, donc vous allez forcément avoir, si on veut créer de la peur, on met un insecte. Si on veut faire quelque chose de sympathique, on met une tête de chat ou de pingouin. C'est, voilà.
Frédéric Ferrer, vous jouez dans des théâtres, mais également parfois dans des universités, devant des vrais étudiants en sciences.
Oui. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, au CNRS, j'ai joué au GIEC aussi. Oui, alors parfois je suis à l'université, le fait que ce soit une proposition artistique, ça avait été caché aux étudiants, et donc c'était.
Mais ils finissent quand même par s'en rendre compte.
Oui, ils s'en sont rendus compte. Il y a quelqu'un qui lève le regard à un moment donné, puis qui regarde autour d'elle, et là, elle se dit, mais c'est pas possible.
Et elle arrête de prendre des notes. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, Michel Wiseau et Frédéric Ferrer. Frédéric Ferrer, la conférence WOW, vous la jouez le 12 mars, notamment au Phoenix de Valenciennes, et puis le 27 février à Chambéry. Un grand merci à Caroline Fillette et Charles Pélabon.